Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Christophe Paco.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. En ce vendredi 23 avril, l'image du jour, elle nous vient de Cap Canaveral et ce lancement réussi du vaisseau Crew Dragon de SpaceX avec à l'intérieur, avec à son bord, Thomas Pesquet et ses trois compagnons d'aventure dans les étoiles. Direction la station spatiale internationale qui brille chaque nuit au-dessus de nos têtes. Dès le début de ce journal, nous serons en direct de la NASA pour revenir sur ce décollage parfait, le détail de la nouvelle mission de l'incroyable Thomas Pesquet et puis nous recevrons celui qui sera peut-être le premier astronaute handicapé à faire ce beau voyage, Philippe Croizon, quadriamputé depuis un accident domestique. Un sondage BVA pour RTL en politique à un an de la prochaine élection présidentielle. Emmanuel Macron toujours bien placé dans une position même stable devant ses principaux concurrents éventuels. Et à ce stade, il est aujourd'hui mieux noté à pareille époque que ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nouveau tremblement dans le monde du football cette fois, la secousse vient de Bordeaux où son actionnaire américain lâche l'affaire à seulement 5 journées de la fin du championnat de France. Les réactions, la colère et l'avenir, on l'évoque dans un instant dans RTL Midi. La météo, c'est tout beau, c'est beau partout, c'est déjà bien. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour, c'est vrai, il fait beau et chaud pratiquement partout en France cet après-midi. J'ai pas l'ombre d'un nuage pour le moment. On aura un petit peu de nébulosité cet après-midi et ce soir sur les Alpes et sur les Pyrénées. Ça pourrait aller jusqu'à l'averse en montagne, mais vraiment pas grand-chose. Partout ailleurs, du plein soleil et des températures qui grimpent, notamment à l'ouest. 25 degrés à La Rochelle cet après-midi. Comptez 21 à Ambérieu et à Toulon, 20 degrés à Paris et Orléans, 19 à Ajaccio, 18 à Caen et Strasbourg et 17 à Abbeville.
Et encore plus de météo tout à l'heure, juste avant 13h avec vous, Valérie Quintin. La question du jour sur RTL.fr, présidentielle 2022 justement. Emmanuel Macron sera-t-il réélu? S'il est candidat, bien sûr. Bonjour à vous, Pascal Praud.
Il faut répondre à cette question.
Oui, ça serait bien.
Ça ne va pas être facile.
Mais non, 35% disent oui pour l'instant et non 51%.
Et puisque vous parlez de ça, eh bien, figurez-vous que dans un portrait que publie aujourd'hui le journal Le Monde de Cyril Hanouna, Marlène Schiappa a dit cette phrase étonnante qui fera réagir nos auditeurs en 2022. C'est Cyril Hanouna qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Donc j'imagine quand un ministre de la République dit cela, ça peut faire réagir. La conquête spatiale vous fait-elle rêver? Ce sera également une question. Une école maternelle ravagée par le feu hier soir dans un quartier populaire de Lille. Là aussi, nous pourrons en débattre. Comme nous pourrons revenir sur le protocole dans les écoles, protocole très strict à partir de lundi. Et puis les Girondins de Bordeaux, s'ils nous écoutent, les supporters qu'ils nous appellent.
Même les anciens, hein, pourquoi pas, pour mettre un peu de sous dans la caisse. Vous voyez ce que je veux
les
dire?
Les Girondins à fond.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole. 3210, 321, 0.
RTL Midi.
Copy, 11h49, Thomas Pesquet et ses trois compagnons de voyage sont donc partis il y a maintenant plus de 44 minutes à bord de Crew Dragon, la navette SpaceX, direction l'ISS, la station spatiale internationale. Lionel Gendron, bonjour à vous.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Et tout s'est formidablement passé pour ce décollage, hein.
Oui, et l'équipe qui va rejoindre la précédente équipe Crew 1, ils vont donc être un peu à l'étroit pendant quelques jours. 11 à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale, il va falloir faire de la place. En attendant, Thomas Pesquet et ses collègues commencent eux aussi un long voyage, une navigation de 23 heures avant d'accrocher l'ISS. Alors pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais assisté à un décollage de fusée, c'est très impressionnant, c'est beau, c'est inquiétant aussi quand on voit cette boule de feu s'élancer vers le ciel, un peu comme une comète mais qui quitterait la Terre, et le son qui arrive avec quelques secondes de décalage, un grondement continu qui vous enveloppe même à 5 km de distance, comme c'était notre cas. Alors on se rend compte là de l'exploit et du courage qu'il faut aux astronautes, hein. Effectivement, vous l'avez dit, tout s'est très bien passé, les étages se sont détachés comme il fallait, en l'occurrence Thomas Pesquet et ses deux collègues filent vers les étoiles. Ces deux collègues sont deux Américains, un Japonais, tout se passe bien dans cette ascension. Thomas Pesquet qui est parti pour un deuxième séjour de 6 mois.
L'émotion de Lionel Gendron à Cap Canaveral, on peut le comprendre, on peut le ressentir quand on aime le domaine des étoiles comme vous le faites si bien ressentir à chaque fois. Merci hein, Lionel Gendron. Sophie Jousselin, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes vraiment notre spécialiste étoilé, vous le savez, sur RTL. Thomas Pesquet et son équipage vont donc mettre maintenant un peu moins, c'est ça, de 24 heures hein, pour rejoindre la navette spatiale internationale.
Oui, c'est une course-poursuite avec la station spatiale qui s'engage. La capsule doit se mettre sur la même orbite que l'ISS, c'est-à-dire à 400 km d'altitude. Donc il faut qu'elle monte maintenant encore de 200 km. Et une fois qu'elle sera sur l'orbite de l'ISS, il faudra ensuite la rattraper. Elle va à 27 000 km/h. Donc l'approche, vous imaginez, doit être très précise. Et les quatre astronautes s'arrimeront demain en fin de matinée. Pour
alors, Thomas Pesquet, on le sait, ce n'est pas son premier voyage, c'est le deuxième. Et il connaît en plus la maison, lui, là-haut. Hein.
Oui, parfaitement, puisqu'il y a séjourné déjà 6 mois lors de sa première mission, de novembre 2016 à mai 2017. Et la station spatiale, Lionel Gendron vient de nous le dire, va être surpeuplée pendant quelques jours. Ils seront 11 sur place, c'est rare. 3 cosmonautes russes qui sont arrivés en Soyouz la semaine dernière. 4 astronautes du premier vol de SpaceX qui eux vont bientôt redescendre sur Terre. Et donc, s'ajoutent Thomas Pesquet et ses 3 collègues, 2 Américains et 1 Japonais.
On se souvient, il a fait beaucoup de photos, Thomas Pesquet. Je crois qu'il a posté une photo de son petit déjeuner ce matin. Il y avait un peu de roquefort,
absolument,
je crois.
Absolument, il y avait du poulet puré aussi.
Et du poulet puré, très bien.
C'était le dîner d'hier soir.
Mais alors, j'allais dire plus scientifiquement, parlant, que va-t-il faire à l'intérieur cette fois ?
Alors, comme la dernière fois, il va faire beaucoup d'expériences scientifiques. Il y en a 100 en tout. Ça va l'occuper 10 d'heures par jour. Il va par exemple étudier le vieillissement du cerveau en apesanteur sur ce qu'on appelle des mini-cerveaux. C'est des ensembles de cellules qui miment les structures et les fonctions du cerveau parce qu'un séjour dans l'espace fait vieillir le corps. Il fera aussi des sorties extra-véhiculaires, une notamment pour changer les panneaux solaires de la station spatiale. Et puis, il fera aussi 2 heures de sport par jour pour éviter la fonte musculaire due à l'absence de gravité.
Oui, on a bien remarqué la fonte musculaire parce qu'on a du mal à marcher quand
absolument,
on arrive sur Terre.
Oui, il n'y a pas de gravité. Donc,
et puis, il avait pris aussi 3 cm de hauteur de mémoire, c'est ça à
voilà,
peu près
oui, c'est ça.
C'est incroyable. Et cette fusée conçue par Elon Musk et ses équipes, elle va revenir, Sophie Joustin, sur Terre, c'est bien clair. Et donc, elle va pouvoir être même réutilisée.
Oui, comme tous les vols de SpaceX. Alors là, on a déjà récupéré le premier étage et il est redescendu. Et la capsule dans laquelle voyage Thomas Pesquet, elle a déjà servi pour le vol d'essai en 2020. Et elle resservira encore plusieurs fois. Ils vont revenir avec. Et elle resservira pour les autres équipages ou pourquoi pas pour des vols de touristes dans l'espace. Il devrait y en avoir un à la fin de l'année avec SpaceX. Il sera financé par un milliardaire américain.
D'accord, c'est un futur vol. Et peut-être j'ai un candidat pour vous qui sera peut-être le premier handicapé à voyager dans une capsule.
Ah, je vois qui vous parlez.
Quadri amputé, c'est Philippe Croison qui est avec nous. Salut Philippe, bonjour à vous.
Bonjour Paco, ça va bien ?
Bah oui, beaucoup d'émotions quand même de voir cette fusée partir, en se disant que toi aussi peut-être un jour, vous aussi en tout cas Philippe.
Bah c'est énorme là. Franchement, là je suis en conférence, vous voyez, je suis à Paris. J'ai fait une conférence pour Initio qui travaille sur l'hydrogène pour ma prochaine aventure, le Dakar Hydrogène. Et en même temps, on a arrêté carrément la conférence pour voir le décollage et voir un petit peu tout ce qui se passait parce que le rêve est tellement beau. Et j'avais une émotion toute particulière puisque effectivement au mois de septembre, j'ai eu la surprise d'avoir été invité par Jared Isaacman et Elon Musk à venir pour le lancement de la première fusée touristique et ensuite discuter comment on peut envoyer un mec comme moi qui n'a pas de bras et pas de jambes dans l'espace.
Oui, ça paraît fou comme Paris, mais ça Paris, paraît. Mais avec vous, je crois que de mémoire, tout est possible, c'est ça Philippe.
Ben oui, c'est mon slogan, c'est tout est possible, l'impossible c'est juste nous, c'est nos peurs, hein, vous savez. Donc voilà, j'ai envie. Franchement, tout à l'heure j'avais de l'émotion en voyant ce décollage. Je me suis dit que là, ça va être début septembre, la première quinzaine de septembre, d'accord, le premier vol touristique. Et première quinzaine de septembre, on est là-bas, on est à Cap Canaveral pour le lancement.
Alors on se souvient que Philippe, vous aviez posté, je crois c'est ça, hein, sur Twitter ou Facebook, peu importe, ou sur Instagram, comme votre envie de partir dans l'espace. Et Elon Musk, vous avez répondu par ses intermédiaires et même lui-même a envie de vous rencontrer.
Exactement, c'est parti d'un tweet, d'une blague sur Twitter en disant, écoute Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras, pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Et il m'a répondu, ok Philippe, dès que SpaceX est prêt, je te promets, je t'envoie dans l'espace. Et vu que je suis quelqu'un qui se démonte jamais, je lui dis, écoute Elon, mes messages privés sont ouverts. Et là, contre toute attente, il m'envoie un message privé. Depuis, on échange régulièrement sur ce voyage au mois de septembre et surtout avec Jared Isaacman, qui est le premier milliardaire à avoir commandé sa fusée.
Ça, c'est clair. Et votre envie d'y aller va peut-être se concrétiser. Vous l'avez dit que ce voyage au mois de septembre à Cap Canaveral, vous allez rencontrer cette fois en chair et en os Elon Musk. Vous avez déjà pensé à votre combinaison, à votre casque, comment ça va se passer quand on reste 3-4 heures à attendre au départ? Tout ça, toutes ces images qu'on a vues aujourd'hui
Avec 50% de remise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu, mais...
c'est pas beau. Mais c'est son humour. Hein.
Vous savez, Paco, vous savez, honnêtement, c'est que déjà rien que le fait d'aller à Cap Canaveral et d'assister au lancement et à l'amérissage, c'est déjà une victoire, quoi. Même si au cas où la médecine dit non, Philippe, c'est pas jouable, je ne sais pas, oui, on va voir comment ça va se passer là-bas, mais déjà rien que le fait d'aller là-bas, c'est une victoire. Je suis tellement heureux, vous ne pouvez pas
tellement
savoir.
Oui, on a un souvenir dans un Dakar auquel vous avez participé il n'y a pas longtemps, il y avait un problème de chaleur de votre corps, hein, comme vous êtes amputé de 4 membres, de vos bras et de vos jambes, il fallait vous mettre dans un camion réfrigérant pour que vous puissiez retrouver la température de votre corps. Est-ce que ce serait un problème si vous partez dans l'espace ?
Non, 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 apparemment, non, non, la température est bien. Non, non, le problème, c'est gérer les jets. Bon, par exemple, Thomas Pesquet s'entraîne dans comment ça s'appelle, la centrifugeuse, à 9G. Oui. Moi, à 9G, je suis sûr que je vais rendre tous mes boyaux. Donc, mais quand on a entendu le décollage tout à l'heure, ça va, jusqu'à 4G, c'est jouable, donc ça va.
Jusqu'à 4G, c'est jouable. Vous serez peut-être, on l'espère pour vous, en tout cas, on y croit, dur comme fer, vous le savez, RTL, hein, le premier handicapé à voler dans l'espace, à partir dans cette station. On vous le souhaite et on va vous accompagner, bien sûr, hein, Philippe. Vous avez compris le message.
Merci. Et puis, plein de bonnes choses à Thomas et à l'équipage.
C'est réussi. On rappelle, c'est parti pour combien de temps, Sophie Jousselin ?
6 mois.
6 mois, avec encore plein d'expériences à l'intérieur. Magnifique moment qu'on a vécu sur RTL, bien sûr. Il est 12h40, une petite pause. Et on va revenir sur les sondages. On va parler de politique dans quelques instants.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
12h42, après les propos du Premier ministre lors de son point presse hebdomadaire, Jean Castex, on le rappelle, a annoncé que le pic semblait être derrière nous, pic épidémique. Santé publique France confirme cette décrue. La semaine dernière, le taux d'incidence a baissé de 18%. Le nombre de patients hospitalisés a baissé, lui, de 4 à moins 6% dans les secteurs de réanimation. L'agence de santé souligne tout de même qu'il est encore un peu trop tôt pour affirmer que le pic de cette troisième vague est bien dépassé, notamment car la semaine dernière, le taux de dépistage a chuté de 23% en raison des vacances de printemps, bien sûr. Cela veut dire que beaucoup moins de personnes se sont fait tester, ce qui explique pour l'instant la prudence de l'agence de santé. À 12h42, l'avis de tempête chez les pêcheurs, en cause les conséquences du Brexit qui continuent de limiter la pêche. Des actions ont eu lieu ce matin au port de Boulogne-sur-Mer pour tenter de renverser la situation. 3/4 des pêcheurs, rappelons-le, n'ont toujours pas leur licence qui leur permettrait ainsi d'aller pêcher dans les eaux anglaises. Antoine Decarne a rencontré ce matin le président de la région de France sur place, Xavier Bertrand.
C'est tout simplement des gens qui bossaient en mer avant et à qui on dit aujourd'hui « vous n'avez pas votre licence ». Et tout le monde se renvoie la balle, le gouvernement français, le gouvernement britannique et aussi la Commission européenne. Maintenant, faut arrêter. Les Britanniques, si c'est eux qui jouent pas le jeu, ils veulent un bras de fer? Alors on fait un bras de fer. Les licences qui ont été promises, elles doivent arriver tout de suite. Ils ont perdu 40 à 50% de leur chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Avec le Covid, les entreprises qui travaillent à terre, elles sont aidées tout de suite. Les entreprises qui travaillent en mer, on leur dit les aides, elles vont arriver à la fin de l'année. Ils vont s'en sortir comment ? Le 1er janvier, ministres sont venus ici en disant « les licences, elles arrivent tout de suite ». On est fin avril, il faut maintenant que tout ça soit réglé et soit réglé tout de suite. Dès le début du mois de mai.
Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avec Antoine Decarne. À un an de l'élection présidentielle, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au beau fixe, semble-t-il. Stable, certes, mais mieux qu'à pareille échéance que ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Bonjour à vous, Jacques Serret.
Bonjour.
C'est le résultat, en tout cas, d'un sondage BVA-RTL.
Oui, exactement. Le chef de l'État recueille 39% de bonnes opinions, le même niveau que le mois dernier, le même niveau qu'il y a un an, avant le début de la crise sanitaire. Et vous le disiez, c'est d'autant plus notable qu'à la même époque de leur quinquennat, Nicolas Sarkozy et François Hollande n'atteignaient pas ces scores. Nicolas Sarkozy plafonnait à 31% de bonnes opinions et François Hollande ne dépassait pas les 19%. En fait, malgré toutes les crises qu'il a traversées, les gilets jaunes, les retraites et maintenant la pandémie, Emmanuel Macron semble avoir préservé son socle, sa base d'électeurs. Selon notre sondage, 80% des Français qui ont voté pour lui au premier tour en 2017 continuent d'avoir une bonne opinion de lui. Plus surprenant, le président bénéficie toujours également d'une forme de bienveillance chez les sympathisants de gauche et de droite. 40% de bonnes opinions chez les sympathisants du Parti Socialiste. En revanche, du côté des extrêmes, le chef de l'État est autant rejeté par les sympathisants de la France Insoumise que par ceux du Rassemblement National à une écrasante majorité. Le rejet d'Emmanuel Macron, c'est bien là-dessus que compte surfer Marine Le Pen, deuxième dans les sondages, la patronne du RN qui lancera sa campagne régionale mais aussi présidentielle dès la semaine prochaine, le 1er mai.
Oui, oui, c'est tout logique. 1er mai pour Marine Le Pen. Merci à vous, Jacques Serret, service politique d'RTL. La question du jour, tout naturellement, va porter sur cette présidentielle 2022. Emmanuel Macron sera-t-il réélu s'il est candidat? On pourra en parler avec vous dès 13h, Pascal Pro.
Je vous remercie de la question, mais à un an de la présidentielle, François Mitterrand en 1980, Jacques Chirac en 94, Jacques Chirac encore en 2001, François Hollande en 2011 ou même Emmanuel Macron en 2016, aucun de ces noms-là n'était favori à un an de la présidentielle, en fait à part François Mitterrand version 2 pour l'élection de 1988 et Nicolas Sarkozy pour celle de 2007, à part ces deux candidats, toutes les autres élections furent des surprises. Donc à ce jeu, statistiquement, Emmanuel Macron ne serait pas réélu, puisqu'il y aura une surprise l'année prochaine. Mais alors qui ? Il n'y a qu'une règle en politique, comme vous le savez, et la règle,
c'est qu'il n'y a pas de règle.
J'adore. C'est Pascal Pro et vous allez pouvoir débattre avec lui à partir de 13h. 32-10, standard ouvert, 3-2-1-0. Juste avant de marquer une pause, cérémonie d'hommage au président tchadien en ce moment, Idriss Déby, décédé en début de semaine. C'est le seul chef d'État à être présent. C'est Emmanuel Macron, justement, qui est sur place, seul chef d'État occidental présent à N'Djamena. Dans un instant, on va revenir sur l'incendie cette nuit d'une maternelle, une partie de l'école maternelle d'un quartier populaire de Lille.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
La suite de votre journal est hier soir dans un quartier populaire de Lille. Les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie d'une partie de l'école maternelle. Et ils ont été pris, Guillaume Chies, bonjour à vous.
Bonjour.
Pris à partie à leur arrivée sur place.
Oui, vers 20h30 hier, les pompiers ont appelé les policiers en renfort. Une quarantaine d'individus les encerclent, les prennent à partie. Ils reçoivent des tirs de mortier. À l'arrivée des forces de l'ordre, les agresseurs prennent la fuite. Une voiture de police est tout de même caillassée. Au final, heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'école maternelle, en revanche, est détruite. Un tiers du bâtiment est parti en fumée. L'origine criminelle ne fait quasiment aucun doute, selon les premières constatations. Le ou les incendiaires ont pénétré par l'arrière de l'établissement, brisé une vitre pour entrer dans une classe. Et c'est de là qu'est parti le feu, qui s'est ensuite propagé au dortoir voisin. Pour le moment, aucun suspect n'a été interpellé, mais les enquêteurs se demandent si l'incendie pourrait être lié au démantèlement d'un point de deal de trafic de stupéfiants qui a eu lieu récemment dans ce quartier populaire de Lille.
Merci pour toutes ces précisions, Guillaume Chies. On rappelle qu'il y a pas mal de moments de violence en ce moment dans quelques villes de France, comme ces jets de projectiles, tirs de mortier d'artifice et feux de poubelle remarqués hier et recensés à Bourgoin-Jallieu en Isère, au cours de laquelle deux policiers là-bas ont été blessés. Manifestation aujourd'hui un peu partout en France contre la réforme de l'assurance chômage. Ce matin, ce sont les intermittents du spectacle et des chômeurs qui se sont retrouvés dès la fin de matinée. Benjamin Boucriche, à Paris, place de l'Odéon.
Oui, ils sont entre 150 et 300 personnes sur les pavés du théâtre, devant chacun des grandes caisses noires utilisées normalement pour transporter du matériel, sauf qu'aujourd'hui, elles servent à faire du bruit. Au mégaphone, les intermittents du spectacle annoncent leurs revendications.
Nous revendiquons une prolongation de l'année blanche et son élargissement à tous les travailleurs et travailleuses précaires en emploi discontinu.
Dans la foule, Olivier est présent. Ce régisseur travaille normalement dans les salles de concert.
Normalement, mon activité, c'est, disons, 200 concerts par an, à peu près. Là, j'en ai fait 6. Enfin, heureusement qu'on a le système de l'intermittence qui nous protège. Mais on n'a pas d'autre choix que de demander à la prolonger.
Juste à côté, Virginie est venue pour soutenir le monde de la culture.
Depuis un an, on se rend compte à quel point tout ça est essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin pour survivre, mais on en a besoin pour vivre.
Tous les manifestants vont maintenant rejoindre la place de l'Italie pour la grande manifestation contre l'assurance chômage. Ce sera à 14h.
Très bien, un reportage de Benjamin Boucriche, place de l'Odéon pour RTL. Jean Castex en déplacement aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme pour annoncer la revalorisation des petites retraites agricoles. On parle de 100 euros en moyenne pour un secteur, on le sait, toujours en difficulté, Anaïs Bouissou.
Oui, la retraite minimum des agriculteurs va passer de 900 euros à 1046 euros net par mois. C'était une mesure attendue qui avait été votée à l'unanimité lors des débats sur la réforme des retraites. Cette revalorisation s'appliquera à partir du mois de novembre pour un premier versement début décembre. Elle concernera 227 000 agriculteurs d'après le cabinet du Premier ministre. Pour y avoir droit, il faut avoir eu une carrière complète et avoir été au moins 17 ans et demi à la tête d'une exploitation agricole. Le coût de la mesure est estimé à 280 millions d'euros par an. Mais elle ne prend pas en compte les conjoints d'exploitants, souvent des conjointes d'ailleurs, qui ont aussi travaillé toute leur vie sans pour autant parfois pouvoir bénéficier d'une retraite.
Anaïs Bouissou, merci à vous, service économique et social d'RTL. À 5 journées de la fin du championnat de France de football, ce coup de tonnerre en provenance de Bordeaux, avec l'actionnaire américain qui jette l'éponge. Pierre Urmic, le maire de la ville, dénonce ce matin un grand gâchis.
Je pense qu'on est là aujourd'hui pour acter ce qui est, à mon sens, un échec économique, politique, sportif, mais aussi éthique. La mairie de Bordeaux sera partie prenante pour le choix du futur repreneur du club. Considère qu'en 2018, elle a été totalement défaillante. Nous pèserons pour faire en sorte que la ville de Bordeaux ait son mot à dire en ce qui concerne le choix du futur repreneur. Nous ne serons pas, comme par le passé, une chambre d'enregistrement. Nous serons un partenaire tout à fait actif.
Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux, bien sûr. Et on retrouve sur place, à l'hôtel de ville, justement, notre spécialiste, Denis Grandjou. Bonjour à vous, Denis.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Et la question qu'on a envie de vous poser ce midi, à l'écoute de tout ce qu'on a pu entendre depuis ce matin, des réactions et à l'instant du maire de la ville, c'est est-ce que Bordeaux va tout simplement finir la saison ?
Oui, les Girondins vont bel et bien finir la saison, nous a confirmé le maire. Les salaires des joueurs seront versés. Même situation pour les quelques 300 hommes et femmes qui travaillent au club. La présence de deux repreneurs potentiels conforte cette idée. Deux hommes quinquagénaires, tous les deux, et originaires, tous les deux aussi, de la région bordelaise, fous de foot. Bruno Fievé, d'abord investisseur en Suisse, il gère des portefeuilles de chefs d'entreprise souvent milliardaires. Son nom est souvent revenu dans la liste des candidats depuis plusieurs années. Deuxième nom évoqué, Pascal Rigaud, qui a fait fortune dans la boulangerie aux États-Unis avec sa marque La Boulange. Ces deux hommes présenteraient, selon le maire de Bordeaux, des garanties financières et éthiques pour la suite des événements. Une suite judiciaire à présent avec la nomination d'un mandataire par le tribunal de commerce de Bordeaux dans les toutes prochaines heures. Quant au volet sportif, les joueurs sont au vert en stage en Bretagne. Ils sont bien sûr au courant de la situation depuis hier, mais ils sont focus, m'a-t-on dit, sur le match de dimanche à Lorient, presque décisif pour leur maintien en Ligue 1.
Merci pour toutes ces précisions, Denis. Grandjou, RTL à Bordeaux. Ce soir, match avancé de Ligue 1. C'est la 34e journée qui débute par un Reims-Marseille. Et puis le prochain Euro, au mois de juin, se jouera dans plusieurs villes d'Europe, ça vous le savez. Mais en raison de difficultés sanitaires, certaines villes s'interrogent. Dublin et Bilbao viennent de renoncer à accueillir l'événement et devraient être remplacés pour accueillir ces rencontres, justement, des villes comme Séville ou encore Saint-Pétersbourg.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
À Saint-Dizier, en Haute-Marne, la mairie a lancé l'opération « La beauté sauvera le monde » en faisant venir la culture tout simplement sur l'espace public. L'idée, alors que tous les lieux culturels sont aujourd'hui fermés, que les habitants puissent quand même avoir un contact avec la culture. Des reproductions de toiles de maître ont été déployées justement en ville, de la musique classique qui sera diffusée dans les prochains jours, quelques milliers d'euros d'investissement pour sortir un peu au moins les gens du marasme. C'est Dimitri Ramelot.
Parvis de l'hôtel de ville, les yeux de Jacques, 82 ans, fixent l'immense bâche déployée sur une aile du bâtiment et le tableau que contemple le retraité, le baiser de Gustave Klimt.
Très bonne idée, ça agrémente la ville, puis il y en a un peu partout dans la ville, c'est très bien.
Car une trentaine de panneaux publicitaires en 4x3, mais aussi une vingtaine de supports plus petits accueillent une quarantaine d'œuvres, un projet porté par le maire Quentin Brière.
Du Cézanne, du Van Gogh, du Botticelli, du Renoir. Depuis le début de la crise, il faut aussi qu'on lutte contre une espèce de dépression qui nous touche de plus en plus. Mais la beauté sauvera le monde. Et donc, puisque la beauté sauvera le monde, faisons en sorte qu'elle rejoigne les gens dans l'espace public, là où les gens sont encore.
Et les emplacements ont été loués par la ville. Coût 10 000 euros pour compenser la fermeture des musées, des lieux culturels et l'absence de moments heureux.
Là, on a la famille Monet dans son jardin. Je trouve ça assez génial. C'est le pique-nique qu'on n'arrive plus à faire.
Et pour agrémenter l'image, la musique aura également sa place dès la semaine prochaine en différents endroits de la ville. Un répertoire choisi par Fabrice Castel, directeur du conservatoire.
Du Lully, des airs d'opéra connus, il y a du Mozart, il y a du 17e au 20e, très très connus, avec des airs que chacun a entendu.
Et à chaque coin de rue, les habitants redécouvrent leur ville autrement.
Ça permet effectivement aux gens de voir un peu ce qui existe. C'est plus intéressant que de voir des vitrines avec des tags, avec des publicités.
Parmi les autres animations à venir, courant mai, des citations de personnalités dans les vitrines des commerces.
Le coup de cœur de nos régions, nos correspondants en région, Dimitri Ramelot, ce midi. Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez pouvoir dialoguer au 32-10 dans quelques instants maintenant. Vous avez écouté Pascal attentivement ce journal. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? C'est la politique, c'est Thomas Pesquet dans les airs, dans l'espace.
C'est vrai que Thomas Pesquet, c'était intéressant tout à l'heure, parce que dans la rédaction d'RTL, au moment de l'envol, tout le monde était devant les postes de télévision. Tout le monde était scotché, tout le monde était debout. Donc est-ce que ça vous fait rêver, l'aventure de Thomas Pesquet? Est-ce que vous iriez, vous?
Moi, je vais accompagner Philippe Croizon, qui sera le premier handicapé, qui était notre invité tout à l'heure, à aller dans l'espace, peut-être un jour.
Vous allez, vous, l'accompagner dans l'espace?
Franchement, ce serait formidable. Non, c'est pas une
belle expérience. Par exemple, vous aimeriez partir 6 mois comme
Je suis un monsieur âgé maintenant, vous savez.
Non, mais je pas, donc ça, c'est une question qu'on peut poser à nos auditeurs. Est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vous auriez le cran, ou est-ce que vous êtes suffisamment aventureux pour vouloir aller, ou est-ce qu'au contraire vous direz, pour tout l'or du monde, moi je ne monte pas là-dedans?
Je n'ai aucune prétention, mais c'est un doux rêve.
Bah écoutez, voilà, donc ça c'est un bon sujet pour nos auditeurs. Nous pourrons y réagir évidemment sur la question: Emmanuel Macron sera-t-il le président de la République l'année prochaine? Et puis on parlera de protocoles stricts dans les écoles, mais également des Girondins de Bordeaux. Mais je sens qu'on va parler météo.
Oui, parce qu'on va profiter de ce beau temps, parce que ce week-end, parce que
vous l'avez dit, Valérie, pas en terrasse.
Oui, mais dehors, déjà, c'est bien.
Oui, c'est
un
bien.
Petit groupe, c'est on vrai, Valérie Quintin. Il va faire très très beau ce week-end, très chaud, finalement.
Ouais, ça commence aujourd'hui, déjà. On a des températures qui sont très élevées cet après-midi dans le Bordelais, notamment 26 degrés à Bordeaux cet après-midi, 24 à Toulouse, 23 à Brest et à Nantes. C'est vraiment à l'ouest qui va faire le plus chaud aujourd'hui. 22 degrés à Lyon et à Marseille, 20 degrés à Paris, 18 à Nancy, 16 à Lille, avec un ciel bien dégagé cet après-midi partout. On a juste à redouter 2-3 petites averses dans les Alpes et les Pyrénées ce soir. Et puis pour ce week-end, bah ça continue samedi et dimanche, du soleil presque partout. Alors dimanche, en fin de journée, ça va un petit peu se charger également sur les Pyrénées. Ça pourra tourner à l'orage en toute fin de journée, mais vraiment rien de très sérieux. Les températures demain vont rester très élevées. Alors pas le matin, ça va picoter encore à Reims, notamment 1 degré seulement au réveil. Dans l'après-midi, demain, fourchette de 15 à 27 degrés entre Cherbourg et Biarritz, 21 pour Paris, Mulhouse et Bastia. Dimanche, les températures vont baisser un petit peu, mais il fera encore beau.
Encore beau,
oui.
C'est bien l'essentiel déjà.
C'est ça.
Dans ce monde. Merci mille fois, Valérie Quintin. Dans un instant, 13h, vous aurez la parole avec Pascal Praud.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL.
Il est 14h, non, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est l'espace qui nous met en décalage horaire, cher Christophe Pascou. Le rappel des titres.
Tout de suite alors.
Tout de suite.
On y va, 13h01.
Il est 13h, oui.
L'image du jour, vous le savez, c'est ce lancement de la navette hein, et du vaisseau Crew Dragon SpaceX avec Thomas Pesquet et ses trois compagnons d'aventure. Tout là-haut, dans les étoiles, il devrait donc atteindre d'ici 24 heures la station spatiale internationale, l'ISS. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a indiqué ce matin qu'une réouverture des lieux de culture était envisageable si la situation épidémique le permet à la mi-mai. Puis en Russie, le président Vladimir Poutine a annoncé lui de côté, il allait offrir 10 jours fériés en mai à ses administrés en Russie. Voilà, pendant 10 jours fériés pour soigner la Covid. Pourquoi pas, pour arrêter ce fléau, bien sûr, mondial.
Ça veut dire que ça se passe mal quand même en Russie. Et qu'il est obligé de faire ça.
On en parlera peut-être. 32-10, 3-2-1-0. Un sujet qui vous passionne, le football, bien sûr. Tremblement de terre à Bordeaux. Les Girondins, plus d'actionnaires pour l'instant. Mais le maire nous l'a dit, le maire de la ville, Pierre Urmic, avec Denis Grandjou, il y a un instant. Il veillera aux intérêts du club pour que ce club reste d'abord en Ligue 1 et continue sa belle aventure. Et puis la France demande à la Commission européenne d'agir fermement pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de pêche post-Brexit conclu avec le Royaume-Uni. Alors que la grogne, on l'a entendu également dans ce journal, monte chez les pêcheurs français. Bon week-end, Pascal.
Merci, Christophe Pacot.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.